participé à une ou plusieurs infractions ayant débouché sur l'assassinat de Grégory.
En proférant à plusieurs reprises des menaces de mort, en procédant à des appels téléphoniques malveillants.
Radio G, savourez nos différences en RNT sur Angers. Radio-g.fr.
À court d'idées de lecture, envie de découvrir de nouveaux genres, ou juste à la recherche d'un premier pas dans le monde des livres, Voix au chapitre, c'est ta dose hebdomadaire de découverte littéraire. Un livre, un extrait, deux émissions. Juste ce qu'il faut pour réveiller la curiosité et l'envie de tourner les pages. Présenté par Manuela, tous les samedis, à 9h10, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bonjour et bienvenue. Nous nous étions quittés la semaine dernière sur le roman « Le meurtre du commandeur » d'Haruki Murakami, où, à la fin du premier extrait, le narrateur de l'histoire se décide enfin à ouvrir le tableau dont le roman porte le nom. Si vous n'avez pas encore écouté la première émission, je vous invite à la retrouver sur radio-g.fr, rubrique « Voix au chapitre » dès maintenant. Dans l'extrait qui va suivre, nous allons donc découvrir le tableau en question. On se retrouve après ce nouvel extrait. Bonne écoute sur Radio G. Sous plusieurs couches de papier, je trouvais une peinture, simplement encadrée, enveloppée dans une étoffe souple, une sorte de coton blanchi. J'enlevais l'étoffe avec précaution, doucement, en faisant très attention, comme si j'ôtais le pansement d'un grand brûlé. Ce que je vis sous cette étoffe blanche, c'était, comme je l'avais bien imaginé, une peinture Nihonga. Une peinture rectangulaire, tout en longueur. Je l'appuyais contre le mur, sur une étagère, m'éloignais un peu et la contemplais. À n'en pas douter, j'avais sous les yeux une œuvre de Tomohiko Hamada. C'était son style, incontestablement, et les techniques qu'il utilisait en propre. Des vides audacieux, une composition dynamique. Ce qui était peint là, c'était des personnages dans des tenues de l'ère Asuka. Avec des vêtements de cette époque, une coiffure de cette époque. Mais cette toile fut pour moi une énorme surprise, car c'était une peinture d'une violence à couper le souffle. À ce que j'en savais, Tomohiko Hamada n'avait jamais peint de tableau violent. Pas une seule fois. Ses peintures représentaient le plus souvent des scènes calmes et paisibles, qui suscitaient un sentiment de nostalgie. Il lui arrivait aussi de s'inspirer d'événements historiques. Mais les personnages représentés étaient en général stylisés pour se fondre dans la scène. Au sein de la nature luxuriante de l'Antiquité, les hommes semblaient partie intégrante d'une communauté étroitement soudée qui vivait dans un grand respect de l'harmonie. Les égaux étaient absorbés dans la volonté de la communauté ou dans une fatalité imperturbable. Et tranquillement, la boucle de leur monde était bouclée. Cet univers était sans doute l'utopie qu'Hamada avait faite sienne. Il ne cessa de peindre ce monde antique sous des angles différents et avec des points de vue différents. Beaucoup d'observateurs qualifiaient ce style de négation de la modernité et aussi de retour à l'antiquité. Parmi eux, certains critiquaient sévèrement ce qu'ils nommaient la fuite de la réalité. Quoi qu'il en soit, de retour au Japon, à la suite de son séjour à Vienne, il abandonna la peinture à l'huile tourné vers le modernisme et se retira seul dans ce monde de calme et de paix, sans aucune explication, sans justification. Mais dans le meurtre du commandeur, le sang coulait. Du vrai sang coulait à flot. Deux hommes se battent avec à la main une lourde épée antique. Cela semble être un duel d'ordre personnel. Les protagonistes de ce combat sont un homme jeune et un vieillard. L'homme jeune plonge son épée dans la poitrine de l'aîné, profondément. L'homme jeune a une fine moustache très noire. Il porte un vêtement serré, couleur d'armoise pâle. Le vieillard est vêtu d'un costume blanc. Il a une barbe blanche fournie, autour du cou, un collier de perles en chapelet. Il a laissé échapper son épée, mais elle n'est pas encore tombée par terre. De sa poitrine, du sang jaillit violemment. La pointe de l'épée a sans doute atteint l'aorte. Le sang teinte de rouge son costume blanc. Sa bouche est tordue sous l'effet de la douleur. Ses yeux sont écarquillés. Il fixe le vide avec amertume. Il est pleinement conscient qu'il est vaincu. Mais la véritable souffrance est encore à venir. De son côté, l'homme jeune a un regard parfaitement froid. Il a les yeux braqués sur son adversaire. On n'y lit ni regret, ni perplexité, ni ombre d'une crainte, ni trace d'exaltation. Tout ce que ses yeux captent, de manière totalement impassible, c'est la mort imminente de l'autre et sa propre victoire incontestable. Le sang qui gicle n'en est que le témoignage, rien d'autre. Il ne provoque chez lui aucune émotion. À franchement parler, jusqu'à présent, je considérais le genre Nihonga plutôt comme une forme d'art représentant un monde statique et stylisé. Les techniques du Nihonga, le matériau utilisé, j'estimais simplement qu'il n'était pas conçu pour permettre une expressivité émotionnelle forte. Je pensais que c'était un monde qui ne me concernait en rien. Mais à présent que j'étais devant le meurtre du commandeur, de Tomohiko Hamada, je compris que ces considérations n'étaient que préjugées. Dans la scène qu'avait représentée le peintre, ce duel acharné où deux hommes s'affrontaient pour leur vie, il y avait quelque chose qui ébranlait le cœur du spectateur, au plus profond. Un homme a vaincu, un homme a été vaincu, l'un a passé l'épée au travers du corps de l'autre, le second a été touché, transpercé. J'étais captivée par cette sorte d'écart entre les deux. Cette peinture avait quelque chose de spécial. Plusieurs personnages assistent à ce duel. D'abord une jeune femme. Elle est vêtue d'un habit de qualité, une sorte de kimono immaculé, les cheveux relevés, ornés de grandes épingles. Elle porte une main à sa bouche, légèrement ouverte. On dirait qu'elle a pris une profonde inspiration et qu'elle est sur le point de pousser un cri. Ses beaux yeux sont largement ouverts. Il y a également un autre jeune homme. Son vêtement n'est pas très beau, un peu noirâtre, sans ornement. Un habit fait pour faciliter les mouvements. Au pied de simples sandales de paille. Ce doit être un serviteur. Il ne porte pas d'épée, simplement une sorte de sabre court à la ceinture. Petit, trapu, une ombre de barbe, et il tient à la main gauche une espèce de registre. Aujourd'hui, on parlerait du porte-bloc à pince d'un employé de bureau. La main droite, comme s'il voulait attraper quelque chose, s'étire vers le haut. Mais il n'attrape rien. Est-ce le serviteur du vieillard, du jeune homme ou encore de la femme? On ne peut pas le savoir. Ce que l'on comprend, en revanche, c'est que pour aboutir à ce duel, il a fallu que les événements se précipitent à une cadence telle que ni la femme ni le serviteur n'ont pu le prévoir. Sur leur visage se lit une expression de pure surprise. Le seul de ces quatre personnages à n'être pas étonné, c'est le jeune meurtrier. Sans doute que rien ne pouvait le surprendre. Il n'est pas né tueur. Il ne se réjouit pas de tuer quelqu'un. Mais pour arriver à ses fins, il n'hésite pas à lui tordre le cou. C'est un homme jeune, épris d'idéal. Quel est cet idéal, on l'ignore. Regorgeant d'énergie, il manie l'épée avec habileté. Pour lui, il n'y a rien d'étonnant à voir ce vieil homme, qui n'est plus dans la force de l'âge, mourir de ses mains. C'est quelque chose de plutôt naturel, de conforme à la raison. Et il y a encore un homme, un étrange témoin du drame. Il se situe en bas à gauche de la peinture. Un peu à la manière d'une note au bas d'une page d'un texte. D'une poussée, il entr'ouvre une plaque fixée dans le sol, passe la tête par là et observe. C'est une plaque de forme carrée, comme une planche. Elle me rappelait la trappe qui donnait accès au grenier de la maison, par la forme comme par les dimensions. L'homme observe à partir de là ceux qui sont à la surface. Un trou qui ouvre le sol? Un regard d'égout carré? Allons. À l'époque Asuka, il n'y avait pas de canalisation souterraine. Le duel se déroule en plein air, dans une sorte de terrain vague. À l'arrière-plan, il n'y a qu'un pin dont les branches retombent. Pourquoi y aurait-il un trou muni d'une plaque en un lieu pareil? C'était incohérent. Par ailleurs, l'homme qui tendait le cou depuis cette ouverture était tout aussi singulier. Il avait un visage bizarrement étroit et long, comme une aubergine tordue. Il était couvert d'une barbe noire, et ses cheveux étaient très longs et emmêlés. On aurait dit un vagabond ou un ermite vivant en dehors du monde. Il semblait comme atteint de démence. Néanmoins, son regard était étonnamment acéré, et l'on y décelait même une certaine clairvoyance. Toutefois, l'homme n'avait pas acquis cette lucidité par intelligence. C'était plutôt une sorte de déviation, un genre de folie peut-être, qui lui avait conféré ce don par hasard. Impossible de savoir en détail comment il était habillé. Je ne pouvais voir que la partie au-dessus de son cou. Lui aussi observe le duel. mais il n'a pas l'air particulièrement étonné de la tournure de l'affrontement. Il semble rester simple spectateur, prenant ce qui arrive comme ce qui doit arriver. Il se peut aussi qu'il s'assure du détail de l'événement, juste par précaution. Quelque chose de ce genre. La jeune fille et le serviteur ne prêtent pas attention à la présence de cet homme, au long visage, qui se tient derrière eux. Leur regard reste rivé sur le violent duel. Personne ne se retourne vers l'arrière. Ce personnage, quel est-il donc ? Dans quel dessin reste-t-il ainsi caché, sous le sol de l'Antiquité ? Pour quel motif Tomohiko Hamada avait-il pris la peine de peindre cet homme énigmatique et étrange à l'extrémité de sa toile, comme pour ruiner exprès la composition équilibrée de l'œuvre ? Et d'ailleurs, pour quelle raison cette œuvre était-elle intitulée « Le meurtre du commandeur » ? Certes, cette peinture représentait un personnage de haut rang, en train de se faire tuer d'un violent coup d'épée. Mais l'appellation de « commandeur » ne convenait pas, de quelque façon qu'on la voit, à cette figure de vieillard vêtue à la mode antique. Ce titre de commandeur se rapportait clairement au Moyen-Âge ou au début des temps modernes en Europe. Un grade qui n'existait pas dans l'histoire du Japon. Et pourtant, Tomohiko Hamada avait délibérément choisi pour sa peinture un titre à la résonance mystérieuse, le meurtre du commandeur. Il devait nécessairement y avoir une raison. Néanmoins, dans ce mot commandeur, quelque chose titillait vaguement ma mémoire. J'avais déjà entendu ce vocable auparavant. Je remontais sur les traces de mes souvenirs, comme si je ramenais à moi un mince fil. J'avais dû voir ce mot dans un roman ou une pièce de théâtre, et même dans une œuvre célèbre. Où donc ? Vous écoutez toujours Voix au chapitre sur Radio G, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr, où je vous plonge aujourd'hui dans le premier tome du roman « Le meurtre du commandeur » d'Haruki Murakami. Bonne écoute ! Puis je me souvins brusquement. C'était l'opéra de Mozart, Don Giovanni. Au début, c'était sûr, se déroulait le meurtre du commandeur. J'allais dans le salon, sortis le coffret de Don Giovanni de l'étagère des disques, parcourus les explications du fascicule joint, et en effet, j'eus la confirmation qu'il y avait bien un commandeur dans la scène initiale qui était assassiné. Ce personnage n'était pas nommé, on l'appelait seulement le commandeur. Dans le livret rédigé en italien, le vieil homme tué au début de l'intrigue était appelé il commandatore. Quelqu'un avait traduit ce terme en japonais, et cette traduction était restée fixée et avait perduré. En fait, un commandatore, quelle était exactement sa position ou sa fonction ? Je n'en savais trop rien. Aucun des fascicules que contenait le coffret ne donnait l'explication sur la question. Il était tout simplement le commandeur. Il n'a pas de nom. Sa fonction principale est d'être tué par l'épée de Don Giovanni au début. À la fin, transformé en une statue funeste, il réapparaît devant Don Giovanni pour l'entraîner en enfer. En y réfléchissant, n'était-ce pas évident ? Ce qui était peint sur ce tableau, le jeune homme au beau visage, c'était Don Giovanni, le débauché, en espagnol Don Juan. L'homme âgé assassiné, c'était l'honorable commandeur. La jeune femme était la jolie fille du commandeur, Donna Anna, et le serviteur, celui de Don Giovanni, le Porreo. Ce qu'il tenait à la main, c'était le registre sur lequel sont notés les noms de toutes les femmes conquises par son maître, Don Giovanni, un très long catalogue. Don Giovanni a séduit Donna Anna par la force. Le commandeur, son père, veut venger cet affront. Il y a duel, il est tué. Une scène célèbre. Comment avais-je pu ne pas le remarquer ? Parce qu'il était difficile d'associer l'opéra de Mozart et une peinture Nihonga censée se passer à l'ère Asuka. J'avais du mal à faire le lien entre ces deux scènes. Mais à partir du moment où je compris le rapport entre elles, tout devint clair. Tomohiko Hamada avait adapté l'opéra de Mozart dans l'ère Asuka. C'était une tentative intéressante, je le reconnaissais. Mais quelle pouvait être la nécessité d'une telle adaptation ? Le ton de l'œuvre était terriblement différent de l'atmosphère habituelle de ses peintures. Et puis pourquoi avait-il fallu qu'il dissimule cette toile dans le grenier en l'emballant de surcroît avec tant de précautions ? Par ailleurs, que pouvait signifier la présence de ce personnage placé en bas, à gauche de la toile ? Cet homme au visage long et étroit qui sortait la tête de sous le sol. Bien entendu, une telle figure n'apparaissait pas dans le Don Giovanni de Mozart. C'était Tomohiko Hamada qui l'avait ajoutée à la scène avec une intention précise. De plus, dans l'opéra, Donna Anna n'était pas témoin du meurtre de son père par Don Giovanni. Elle s'en va demander de l'aide à son promis, le chevalier Don Ottavio. Et lorsqu'ils reviennent ensemble sur scène, le meurtre du père a déjà été accompli. Tomohiko Hamada, sans doute pour accentuer la théâtralité de la scène, avait ainsi subtilement modifié les circonstances telles qu'elles étaient établies. Quant à l'homme qui sortait du sous-sol, il ne pouvait en aucun cas s'agir de Don Ottavio. Il était évident que son visage monstrueux n'était pas de ce monde. Il était impossible que ce soit là le chevalier au teint clair, le justicier venant en aide à Donna Anna. Cet homme serait-il un démon sorti de l'enfer ? En reconnaissance pour y entraîner Don Giovanni, il serait venu l'observer auparavant ? Non, il était difficile de voir dans ce personnage un démon ou un diable. Un démon n'aurait pas une intensité aussi étrange dans le regard. Un diable ne soulèverait pas une planche carrée tout doucement et n'allongerait pas le cou pour observer ce qui se passe sur Terre. Dans cette scène, ce personnage me semblait tenir le rôle du fripon, en quelque sorte. Je décidai de l'appeler pour l'instant « Long Visage ». Par la suite, plusieurs semaines durant, je contemplais cette peinture en silence. Quand je me trouvais face à elle, je ne ressentais strictement aucun désir de peindre mes propres tableaux. Je n'avais pas non plus vraiment envie de manger. J'ouvrais le réfrigérateur, prenais les légumes que j'y trouvais et je les grignotais en ajoutant de la mayonnaise. Ou bien je faisais réchauffer une boîte de conserve dans une casserole. Ce genre de choses tout au plus. Assis par terre dans l'atelier, tout en écoutant encore et encore les disques de Don Giovanni, je scrutais sans m'en lasser le meurtre du commandeur. Au crépuscule, je buvais un verre de vin en contemplant la toile. C'est une peinture magnifique, pensais-je. Pourtant, à ce que j'en savais, Tomohiko Hamada ne l'avait fait apparaître dans aucun album de reproduction. Autrement dit, l'existence de ce tableau restait ignorée du public. Si ce tableau avait été connu, nul doute qu'il aurait compté comme une de ses œuvres majeures. Si s'était tenue une rétrospective de ses œuvres, il aurait mérité d'être utilisé comme affiche. Et cette toile n'était pas seulement une peinture magnifique. Il se déployait là, clairement, une énergie d'une espèce peu commune, débordante. En tout cas, pour les amateurs ayant la moindre connaissance des beaux-arts, cela sautait aux yeux. Le peintre avait insufflé à sa peinture quelque chose qui trouvait un écho au plus profond du cœur des spectateurs. Il y avait mis une force suggestive qui invitait leur imagination à s'envoler vers un autre horizon. Et puis, j'étais incapable de détacher mon regard, je ne savais trop pourquoi, de ce long visage barbu à l'extrémité gauche de la toile. J'avais en effet l'impression qu'après avoir ouvert cette plaque, c'était moi, personnellement, qui l'invitais dans ce monde souterrain. Pas quelqu'un d'autre, non, moi seulement. Et de fait, je brûlais d'envie de savoir de quelle nature était le monde situé sous cette plaque. Cet homme, d'où venait-il et que faisait-il là? Cette plaque allait-elle ensuite être refermée ou bien resterait-elle ainsi ouverte? En regardant la peinture, j'écoutais sans cesse la scène en question de Don Giovanni, à la suite de l'ouverture, le premier acte, la troisième scène. Je finis par connaître par cœur les paroles chantées et les textes prononcés. Donna Anna. Ah, cet assassin a tué mon père. Tout ce sang, cette blessure et son visage. Aussi se teintent les couleurs de la mort. Il ne respire plus. Ses membres se glacent. Mon père chéri, mon père tant aimé. Je sens que je perds conscience. Je meurs. Murakami a un style très poétique et très descriptif. Après un roman, vous saurez tout du personnage principal, du type de musique qu'il écoute, jusqu'à ses habitudes alimentaires. Et lorsqu'on apprend à connaître un peu l'auteur, notamment à travers les autobiographies qu'il a pu écrire, on comprend vite que ses personnages tiennent beaucoup de lui. Ce tableau et le long visage cachent encore bien des choses que je vais vous laisser découvrir. Ce roman est disponible aux éditions Belfond ou en poche chez 10-18. Il est très facilement trouvable dans la section romans étrangers de n'importe quelle librairie. Vous pouvez toujours retrouver les deux émissions dédiées à ce roman sur radio-g.fr et suivre les prochaines sorties d'émissions sur la page Instagram Voix au chapitre. Nous nous retrouverons pour une nouvelle découverte la semaine prochaine qui nous plongera dans le côté effrayant de la génétique. En attendant, restez connectés sur Radio G pour l'émission Samedi Souvenir de 10h à midi. Il est temps de tourner la page pour aujourd'hui. Bon week-end !
to the dust that shrouds your past that has left you forlorn. Cause no one really knows their makeup. And gamma rays speak more than paper. Ever growing, ever sharing, ever owning, not just bearing. You're beautiful in your skin.